Voilà, donc des mondes souterrains, eh bien, on en voit, j'allais dire, de toutes les couleurs ici au Louvre-Lens, au musée. Et donc, je suis avec deux commissaires, deux des trois commissaires de cette exposition, peut-être que vous pouvez vous présenter.
Jean-Jacques Terrin.
Et Alexandre Estaquet, le grand directeur du MUDO à Beauvais.
Donc, cette exposition, elle est au départ un concept, d'une certaine manière, puisqu'il s'agit d'entrer dans ces profondeurs de la Terre et d'en faire ressentir peut-être les imaginaires, les impressions, les illusions aussi.
C'est une volonté de départ de créer une sorte de parcours qui permette aux visiteurs de se promener à travers un certain nombre de sensations, d'images, de réminiscences, lui laisser faire le lien entre tel ou tel point et finalement s'enfoncer progressivement dans les profondeurs de la Terre à travers ces images, un peu comme le jeune homme qui doit être initié va entrer dans une cabane obscure dont il ne sait pas très bien quelle expérience il va mener avant de retrouver une lumière au fond du tunnel et découvrir que cette lumière, c'est la vie, c'est le retour au monde du bonheur, du désir, du plaisir et enfin de la vie.
Donc ce parcours, vous l'avez imaginé au départ en ayant en vue déjà les œuvres que vous y présentez ou vous êtes parti peut-être d'une idée, vous avez essayé de trouver des œuvres pour les intégrer ?
On a fait un peu les deux, c'est-à-dire qu'on avait des œuvres qu'on tenait absolument à avoir dans cette exposition sur le sujet, qui pour beaucoup d'entre elles sont véritablement exposées, mais on avait surtout la volonté de créer un parcours qui soit intelligible et qui puisse renouer avec ce que Jean-Jacques évoquait, à savoir cette dimension immersive et cette initiation proposée aux visiteurs. De fait, nous avons fait, comme on pourrait dire, une très grosse liste au Père Noël, que nous avons au fil du travail sur le projet, commencé à élaguer en fonction du récit qui se mettait en place dans le propos qu'on voulait vraiment raconter. Et il se trouve que par bonheur, nous avions très bien fait notre travail puisque une grande partie des œuvres que nous avions sélectionnées a su trouver sa place dans le récit qui nous tenait vraiment à cœur.
Alors c'est vrai que l'art contemporain, je pense à des lieux comme le Fresnoy par exemple, amène beaucoup d'immersion, de capacité aux personnes à ressentir des sensations. Dans l'histoire traditionnelle de l'art, est-ce qu'on retrouve déjà des intentions de ce type-là ?
Oui, bien sûr. Tout d'abord, il nous faut dire que nous avons souhaité dans cette exposition surtout avoir un grand brassage, un grand regard des différentes époques. Nous n'avons pas fait un travail chronologique, nous avons fait un travail qui consiste à faire se confronter des œuvres aussi bien antiques que contemporaines, du 7e siècle, classiques, etc. Et donc ce regard que nous avons voulu implique forcément une introspection permanente. Et quand on parle d'introspection, on peut aussi parler effectivement d'inclusion, de regard immersif, puisque c'est les ambiances qui jouaient un rôle important dans les choix que nous avons faits, non pas tant des œuvres, mais des confrontations entre les œuvres. Et donc c'est ça qui donne à cette exposition peut-être son caractère immersif, c'est-à-dire que l'ambiance, comme vous l'avez vu peut-être, les premières salles sont très rouges, flamboyantes, noires, sombres, et puis petit à petit, la lumière se fait. Et ce sont ces œuvres-là qui sont choisies dans ce but.
Alors c'est vrai que le Louvre lance sur un territoire ex-minier avait toute logique à présenter des œuvres justement qui font penser ou qui font voir, qui font ressentir ces impressions qui sont peut-être parfois celles des anciens mineurs.
Alors c'est vrai, et ça a été un gros sujet de réflexion pour nous. Faire un clin d'œil à la mine, par exemple, et aux ambiances des réalités souterraines, c'était une évidence, mais il y avait un risque. Un écueil dans lequel on a essayé de ne pas tomber, c'était justement d'en faire trop dans ce domaine-là. C'est-à-dire on voulait rester vraiment dans l'évocation et dans un discours, un récit qui soit le plus généraliste possible. Et la manière dont on a souhaité positionner justement, non pas l'ambiance du site minier, mais plutôt son histoire avec la figure tutélaire presque du mineur, eh bien on a choisi de la placer littéralement au cœur même de l'exposition, parce qu'elle était véritablement à cheval sur les deux versants qu'on a cherché à développer, parce que justement on avait cette idée de parcours, de périple, d'initiation, sans vouloir créer une exposition totalement dédiée à l'univers de la mine, qui était peut-être, j'ai envie de dire, non pas trop classique, mais téléphoné ou attendu ici au Louvre-Lens.
Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une opposition entre la lumière, on va dire, du ciel, etc., et les contrastes et l'obscurité des profondeurs qui peuvent paraître au départ très inquiétants?
Moi, je dirais juste une chose à ce sujet, c'est que je ne suis pas persuadé qu'il y ait une opposition. Il y a peut-être une histoire de reflet, mais de reflet déformé. Est-ce que c'est l'ambiance du ciel qui est un reflet déformé de la lumière souterraine, ou est-ce que c'est l'inverse? Ça, malheureusement, nous n'avions pas comme ambition de répondre à cette question dans l'exposition, et je pense que chaque visiteur pourra se livrer à cette réflexion et trouver sa propre réponse là-dessus.
Et ces ténèbres, ces profondeurs, ces souterrains, enfin ces grottes, etc., est-ce qu'au fil du temps, on retrouve déjà dans l'Antiquité une certaine forme d'utilisation de ces espaces pour faire peur aux gens?
Bien sûr, c'était le but. Ça a toujours été le but. La profondeur, l'obscurité a toujours fait peur aux enfants, mais aux adultes aussi. C'est pas un hasard si les oracles, si les sibylles, si un nombre important de dieux se situent dans les profondeurs. C'est bien sûr parce que il fallait entrer dans ces endroits et que ces endroits font peur. Et donc inspire le respect, inspire l'appréhension, inspire.
J'imagine que la religion n'est pas étrangère aussi à cette volonté de faire peur et à peut-être mettre les gens dans des situations un peu captives.
Bien entendu.
Merci.
Je vous en prie.